Très bien, écoutez, nous allons démarrer cette audition. Mesdames, Messieurs, donc, comme vous le savez, l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans, à la majorité des membres qui le composent, le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette même loi précise d'une part que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique, et d'autre part que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétences et d'expérience. Et donc, en application de ces dispositions, il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Dans cette perspective, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre dans une résolution du 26 février dernier qui a été publiée au Journal officiel. Le calendrier de cette procédure, que nous avons souhaité la plus transparente possible, a été modifié compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. C'est pourquoi je voudrais en rappeler ici les principales étapes. Nous avons d'abord lancé un appel à candidature qui a été clôturé le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques ont été publiés mercredi dernier. Et nous auditionnons cette semaine, donc aujourd'hui et demain, les candidates et les candidats dont les candidatures ont été jugées recevables dans un ordre qui a été déterminé par un tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée au plus tard ce vendredi 24 juillet. Dans ce cadre, Madame, je vais vous céder dans quelques instants la parole pour une présentation liminaire d'une durée maximale de 30 minutes, qui pourra être suivie de quelques questions des membres du collège. Cette première partie de l'audition, d'une durée d'une heure, est, comme vous le savez, publique. Elle est retransmise sur notre site et elle est accessible aux personnes en situation de handicap. Cette première partie sera suivie d'une discussion avec les membres du collège, d'une durée d'une heure également. Seconde partie qui se déroulera, elle, à huis clos, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000. Madame, vous avez la parole.
Bonjour. Donc d'abord, c'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionnée et je vous remercie de me donner la possibilité de défendre ma candidature devant vous. Je profite aussi d'être là pour saluer le professionnalisme des personnels de France Télévisions qui, pendant la crise du Covid, ont été réactifs, ont proposé des programmes informatifs, divertissants et utiles. Et comme c'est la première fois que je vous rencontre tous, mesdames et messieurs les membres du collège, permettez-moi de faire un rapide résumé de mon parcours. Alors, j'ai 50 ans et j'ai 30 ans de carrière. Si je connais Charles Bukowski ou Françoise Sagan, c'est grâce à Apostrophe. Si je connais où se situe Ushuaïa sur la carte, c'est grâce à Nicolas Hulot. Et si je connais les grands noms du rock'n'roll, c'est grâce aux enfants du rock. Alors, je vais arrêter là la liste parce que vous l'aurez compris, elle peut être très longue, mais je suis tombée très tôt dans la potion magique de la télévision. À 21 ans, j'ai fait la seule formation audiovisuelle sérieuse qui existait à cette époque, le DSS de droit et administration de la communication audiovisuelle de la Sorbonne, et depuis j'ai fait à peu près tous les métiers de la télévision et gravi tous les échelons. Assistante de production, documentaliste, journaliste, rédactrice en chef, productrice, directrice d'une chaîne publique, directrice du développement dans un grand groupe international. J'ai commencé en 92, j'ai été embauchée par Alain De Greff en créant le concept de l'émission Télédimanche sur Canal+, avec Michel Denisot. J'y suis restée 5 ans. J'ai été à la genèse et à la création des enfants de la télé dans sa première version sur France 2 en deuxième partie de soirée. Puis, j'ai été adjointe au directeur des magazines à M6. J'ai ensuite été productrice à Andemol. Puis, j'ai créé ma boîte de production, notamment pour faire de la fiction pour France 2. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le grand bain de France Télévisions, où j'ai intégré MFP, Studio France Télévisions, je crois que c'est devenu comme le nom de MFP aujourd'hui, en 2009. Mon rôle était de développer le poids de la filiale au sein du groupe. En 2012, je suis nommée par Rémi Fimelin, directrice des programmes de France 4, et puis de son antenne, jusqu'en 2014. En 2015, changement de continent, je pars suivre mon mari dans une expérience professionnelle, enfin surtout la sienne, à Shanghai. Je n'imaginais absolument pas pouvoir travailler en Chine, mais chasser le naturel revient au galop. J'ai allumé la télévision et j'ai découvert la convergence entre la télévision et le numérique quasi total. Les télés là-bas sont connectées et les contenus et les programmes sont interactifs. J'ai trouvé le moyen de rencontrer le directeur international de Shanghai Media Group, qui est le deuxième groupe en Chine. C'est 20 000 salariés, 15 chaînes de télévision, 10 stations de radio, 2 plateformes, des studios d'enregistrement. Bref, c'est un gros groupe. Le directeur international m'a alors confié une mission, créer une plateforme avec son équipe. On était 10 au départ, on était 500 à l'arrivée. Une plateforme OTT regroupant tous les divertissements et les fictions chinoises de toute la Chine, pas seulement d'SMG, qui avaient une valeur à l'exportation. J'ai fait le tour des marchés internationaux en Asie pour promouvoir cette plateforme, à Tokyo, à Séoul, à Singapour, et bien sûr en Europe, à Cannes, 2 fois par an, au MIPTV, au MIPCOM. J'ai évidemment promu la France à chaque fois que ça m'était possible. J'ai notamment négocié l'achat des droits du format de la série 10% pour le développement sur le territoire chinois, c'est en développement actuellement. Enfin, avec la crise du Covid, ça a pris un peu de retard. J'ai signé un accord de production entre SMG et l'agence 100 degrés Shanghai pour une série de 26 magazines sur la vie culturelle à Paris. Et j'ai signé un protocole d'accord de formation entre l'INA et SMG. Ma mission s'est arrêtée fin 2019. Alors, sans parler du monde d'après, on sait tous qu'il y aura des changements induits par ces crises sanitaires et économiques que nous vivons. L'accélération de la cause écologique, l'accélération des transformations numériques, et les adaptations au monde du travail avec le télétravail. Dans cette nouvelle donne, mon ambition, c'est de pouvoir emmener France Télévisions dans une nouvelle étape de sa vie, que j'appelle « Nouvelle ère ». Il s'agit de donner les moyens au groupe de garder ses acquis, son statut, ses forces, mais de l'inscrire dans l'avenir comme une nouvelle étape de son évolution, urgente d'après moi. Il s'agit de répondre à tous les nouveaux usages, mais aussi aux anciens, en touchant tous les publics, en tenant compte de la fracture numérique et de l'équité sociale, partout et à tout moment. Comment ? En devenant un média global public, dont la télévision linéaire n'est qu'un des piliers. Certes, essentiel, mais qu'un des piliers. Dans mon projet, je propose un nom, France Média Vision. Il s'agit là d'une proposition qui me permet de nommer ma stratégie, de poser ma vision. France Télévisions doit évoluer vers un groupe multimédia, multicontenu, multisupport. C'est comme ça que l'on passera de la télévision pour tous à la télévision pour chacun. Car désormais, pendant de nombreuses années, c'est sur deux jambes qu'il faudra en permanence avancer, le linéaire et le délinéaire, l'un nourrissant l'autre. Alors le groupe devra englober 3 offres. La première, le bouquet de chaînes tel qu'on le connaît avec ses chaînes, France 2, France 3, mais dont il faut imaginer redéfinir le périmètre et surtout repenser l'éditorial. Une deuxième offre, qui est une offre délinarisée avec une nouvelle plateforme centrale ultra performante sur laquelle on retrouve les chaînes linéaires dès la page d'accueil, toutes les plateformes dédiées du groupe à l'information, à la jeunesse, à l'éducation, à la culture et au sport, en clair, aux missions premières de service public. On y retrouvera aussi des nouveaux services de proximité innovants, comme par exemple une billetterie de spectacle, comme par exemple un service de e-live pour ouvrir le champ des captations de spectacles, comme par exemple un e-club de téléspectateurs en ligne avec des forums où les téléspectateurs pourront avoir des liens directs engagés avec le groupe. Mais bien sûr, on y retrouvera aussi le service qui aujourd'hui est le plus attractif, le service de replay France.tv, mais en l'améliorant. En plus, une troisième offre, intégrée aussi à cette plateforme, mais qui est nouvelle, une offre en mobilité, une offre de podcasts natives et de des podcasts aussi en replay des émissions existantes, car il faut savoir que les contenus audio seront sans doute la plus grosse évolution de consommation de contenu dans les années à venir. Et cette offre sera de fait accessible sur tous nos territoires, car elle est légère. Pour donner un signal fort de l'évolution de France Télévisions, je crois profondément qu'il faudra faire évoluer la marque. Pas tout de suite, mais c'est un objectif. Il ne s'agit absolument pas de changer de nom pour changer de nom. Ce n'est pas un caprice de présidence. Il s'agit bien de donner un vocabulaire et de verbaliser ce qu'on fait. Il faut bien se rendre compte que l'appellation télévision n'est plus très de notre époque. En tout cas, à l'étranger, Télévision, TV, n'est pratiquement plus utilisé. Alors, on parle de networks, on parle de plateformes, on parle de broadcasters, on parle de channels. Il faut bien voir que BBC, par exemple, ils ont eu une chance incroyable, c'est que dès le démarrage, ils n'ont pas utilisé le mot télévision. Donc, ça, c'est important, je pense. Ce mot-là n'est plus le mot de notre époque. Alors, l'autre jour, même ce matin, je passais devant la devanture de France Télévisions et j'ai vu, en gros, en haut à droite, marqué France.tv, avec sans F majuscule, en fait. Alors, on ne peut pas On ne doit pas fonder la stratégie de développement du groupe audiovisuel d'un pays comme la France sur son simple replay vidéo. C'est beaucoup trop réducteur, pas assez ambitieux. France Médiavision impose la puissance publique. Ce sera plus facile de discuter avec des partenaires ou des concurrents internationaux, y compris les plateformes. France Médiavision montre la richesse de nos offres et de tous nos canaux de distribution. Ce sera plus facile d'exposer la création française partout et tout le temps. Nous afficherons l'innovation du groupe et notre capacité à se réinventer. Mais qu'on ne se trompe pas, c'est bien la puissance de l'offre linéaire qui sera la puissance de ce média global public. Le métier du groupe reste plus que jamais de proposer des programmes et des contenus exclusifs, le plus possible, renouvelés, le plus possible. La création reste le nerf de la guerre. Alors, dans mon projet stratégique, j'ai développé un certain nombre de facteurs de réussite à ce projet. Je voudrais juste faire quelques focus sur deux, trois points. D'abord, la mission de service public à revendiquer comme des atouts. Réputées contraignantes, il faut les considérer comme des véritables avantages, d'autant qu'elles sont distinctives des chaînes privées et des plateformes. Informer, cultiver, éduquer, inspirer tous les publics, tout le temps et partout. Et ce sont ces missions qui vont permettre de tracer une feuille de route éditoriale claire, à la fois pour les antennes, mais aussi pour les producteurs. L'objectif majeur, quel que soit le genre, est d'apporter un bénéfice téléspectateur. Car en tant que téléspectateur, ce que je veux du service public, c'est apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, sans jamais m'ennuyer. En clair, je veux des programmes populaire et de qualité. Depuis 5 ans, le service public a créé trop peu de marques emblématiques. La création a autant besoin du groupe que l'inverse. Le groupe a besoin des auteurs pour son renouveau éditorial. D'autant qu'il faut s'attaquer au problème du vieillissement du groupe. L'âge moyen des chaînes du groupe est compris entre 58 et 60 ans. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de faire du groupe un groupe à destination des 15-25 ans, non. Il s'agit juste de faire tous les efforts pour essayer de le ramener à l'âge moyen des Français. 42 ans, allez, disons 45 ans. Et pour cela, il va falloir élargir l'audience, surtout pour la chaîne Amiral France 2, avec 3 leviers. De l'audace, car c'est de l'audace que viendra l'audience. De la diversité, car c'est de la juste représentation des visages des Français que viendra l'adhésion. De l'innovation, car c'est de l'attractivité que viendra l'engagement. Alors, je voudrais aussi parler, évidemment, de la chaîne France 4, parce que je pense qu'il est impossible de se passer d'une chaîne linéaire pour la jeunesse, dans un groupe public, pour plusieurs raisons. C'est une de nos missions fondamentales que d'éduquer et faire grandir nos enfants. C'est un gage de sécurité que de proposer une chaîne sans publicité. C'est un gage d'équité sociale. C'est un gage de couverture totale du territoire. Et surtout, on le dit moins, mais c'est notre public de demain. Il faut créer des liens affectifs avec eux, créer des souvenirs. Il faut naturellement maintenir France 4. Alors, je ne suis pas législateur, mais je veux convaincre. Ma position sur cette chaîne, sur France 4, n'est pas nouvelle. Après avoir retiré progressivement les séries américaines lorsque j'étais directrice des programmes, j'ai produit un rapport interne en 2013 pour que la chaîne prenne définitivement cette direction. Alors, concernant le renouveau éditorial, là aussi dans mon rapport, j'ai listé un certain nombre de chantiers auxquels il faudra s'attaquer, dont l'information, dont la jeunesse, je viens d'en parler, l'éducation, dont qu'est-ce qu'il y a, la culture, le sport, il y en a 7. Mais là, je voudrais faire un petit résumé sur 2, si vous me permettez. Alors déjà, il y a un prérequis, c'est qu'il faut arrêter de ressusciter des programmes d'outre-tombe et diminuer les formats étrangers sur nos antennes. Sinon, on ne pourra pas exporter en tant que Français et là aussi, on perd de notre souveraineté. Alors, je veux faire un petit focus sur l'information, parce que c'est très important pour le groupe. Le groupe a la plus grande rédaction de France, une rédaction nationale France 2, un réseau régional et d'outre-mer, une chaîne d'information France Info Canal 27, une application France Info, une plateforme d'actualité France 3 Région. Quel groupe possède une telle puissance? C'est très important pour nous de jouer sur la synergie. Par exemple, je voyais sur les journaux de TF1, souvent l'animateur à la fin fait référence à une émission qui va avoir lieu sur LCI pour approfondir l'information. Ça fait partie des petites choses qui sont simples à faire, pas coûteuses et qu'il faut absolument que l'on fasse. Par ailleurs, notre indépendance, notre impartialité est le fondement du groupe. Mais les politiques doivent revenir sur les antennes du groupe en priorité. Le Premier ministre, M. Jean Castex, a fait sa première intervention sur TF1, puis sa deuxième sur BFM, puis il y a quelques jours sur France 2 seulement. Il faut restaurer un lien entre les Français et leurs élus nationaux et régionaux. La télévision publique doit être la télévision de la République. Il n'y a pas d'émission politique récurrente identifiée pour accueillir la parole politique. La cassure du lien avec les élites vient peut-être aussi de ce déficit. Je vais dire quelques mots sur la culture. On a deux chances incroyables. On est français. Notre culture est admirée dans le monde entier. Mais pas seulement celle d'hier, celle d'aujourd'hui aussi. Nos architectes, Jean Nouvel, construisent les musées à l'international. Nous avons les musiciens qui sont des stars à l'international, comme Bob Sinclair, David Guetta. Nous avons des designers admirés partout. L'autre chance incroyable, c'est d'avoir des multicanaux, d'avoir des multichaînes linéaires, d'avoir des multichaînes délinéarisées, bientôt des podcasts, qui nous permettent d'accueillir la culture sous toutes ses formes. Je pense qu'il ne faut pas ghettoiser la culture. Il faut ouvrir la culture au travers de tout type de programmes, d'événements spéciaux, de jeux culturels, d'émissions diversifiées, de documentaires, de retransmissions en direct. Là aussi, je donne beaucoup d'exemples dans mon rapport. Donc, je vais juste donner un exemple qui serait symbolique de l'ouverture de la culture. Ce serait une émission en direct quotidienne d'accueil d'artistes en public, plutôt sur France 2. L'émission doit être le terrain de jeu et d'expression de tout le milieu culturel. Alors, évidemment, tout ce que je viens de dire, tout ce renouveau, constitue en lui-même un plan de soutien à la création. Car, évidemment, il faudra augmenter le budget pour l'éducation, la scène française et la culture. Mais le service public ne peut pas tout seul. Il faudra aussi une solidarité et un partage des cases. Je sais que les producteurs seront d'accord avec moi. Mais lorsque vous avez des producteurs qui ont des cases 365 jours sur 365, parfois deux fois par jour, je pense qu'à des moments de calendrier opportun, par exemple les vacances scolaires, pendant 15 jours, on peut retirer ses budgets à ces gros producteurs pour essayer et tester avec des producteurs dont on pense qu'ils sont la relève, à moindre coût et à moindre risque d'audience. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, il y a évidemment un axe financier qui est très important, parce qu'il va bien falloir prendre des mesures et faire des choix. Donc je souhaite négocier avec l'État actionnaire un moratoire sur les 160 millions d'économies qui génèrent, semble-t-il, un glissement de 400 millions d'économies au total. Ces économies que nous ferons doivent être réallouées à la création de contenu et au développement du numérique. Mais ce n'est pas tout. Je nommerai une personne spécifiquement en charge des économies nouveaux projets pour bien identifier, pour bien hiérarchiser les priorités. En devenant un média global, je le répète, il faudra faire des choix. Est-ce que les économies que nous pouvons attendre des synergies en cours sont concluantes? Est-ce qu'on peut attendre des économies structurelles avec l'adaptation au télétravail, par exemple, ou à la numérisation de nos systèmes d'information en interne? Il y a tout un tas de questions comme ça qu'il faudra se poser. Je serai aussi très vigilante concernant les audits des comptes de producteurs pour que les prix et les coûts des grilles soient surveillés et éviter la surenchère budgétaire. Je veillerai aussi à plus de diversité de producteurs dans un souci d'équité. Dès l'instant qu'on applique aux autres un contrôle des coûts, il faudra se l'appliquer à soi-même. La filière de production doit être rationalisée. Il faudra ouvrir le débat pour voir comment la rendre plus compétitive et complémentaire avec la filiale Studio France Télévisions. Je souhaite également trouver des nouvelles recettes et aller à la conquête de la croissance externe. La plateforme que je propose en est un des axes. Parler du personnel me tient particulièrement à cœur. D'autant que moi-même, j'ai été salariée de ce groupe. Les liens de confiance entre l'avenir et entre les personnels et la direction de l'entreprise doivent être rétablis. Le dialogue avec les salariés me paraît d'autant mieux possible et ouvert que nous pourrons le faire sur la base de mon projet stratégique, car il s'agit d'un projet d'entreprise. Avec France Média Vision, j'associerai les personnels du groupe, je souhaite fédérer. Il n'est pas question de tout bouleverser, de tout chambouler pour les salariés qui ont été ballottés dans des réorganisations à n'en plus finir. Je veux juste vous dire qu'ensemble, on va simplifier, moins s'éparpiller et même parfois continuer ce qui marche déjà. Un plan de rupture conventionnelle collective est en cours. 2000 départs sont attendus d'ici la fin 2022. Il faudra faire un point d'étape. Il n'est pas question de le rediscuter. Mais il faudra bien faire le point sur les postes qui sont libérés, combien, et ceux dont on aura besoin. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avec mon projet, il y aura des opportunités de carrière. Je ne pense pas que lorsqu'on a 50 ou 55 ans, j'en suis la preuve vivante, on ne peut pas se former, on peut évoluer. Et je favoriserai la mobilité en interne. En conclusion, je dirais que la crise a bouleversé les esprits. Avec mon projet France Média Vision, un groupe multimédia, multisupport, multicontenu, j'ai aussi voulu bousculer les esprits. Dans 2 ans, France Télévisions aura 30 ans d'existence, l'âge de la maturité. C'est le moment de s'adapter aux besoins du monde de demain et d'aujourd'hui. Je vous propose non pas une rupture brutale avec hier, mais bel et bien un point de passage entre l'avant 2020 et l'après, en tenant compte de tous les savoir-faire de l'entreprise, en n'opposant pas les générations, en répondant à tous les usages sur tous les territoires. Ce média global public est un formidable outil de partage éducatif, culturel, informatif et divertissant. Forte de mon expérience unique à l'étranger, j'ai pu voir combien la France était appréciée. Nous avons des atouts, nous pouvons être confiants et surtout fiers. Nous sommes le drapeau de la démocratie et de la méritocratie. Plus que jamais, la télévision publique française doit refléter l'image d'une France qui évolue en permanence. À la tête du média global public français, j'en serai en quelque sorte l'ambassadrice.
Merci beaucoup de votre présentation dans les temps requis. Alors, je vais me tourner vers les membres du collège pour voir s'ils souhaitent vous poser quelques questions. Nicolas Curien, peut-être.
Merci beaucoup. En complément de votre exposé, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des coopérations que vous envisagez avec les groupes privés d'une part et à l'international d'autre part ?
Alors, je crois qu'il y a déjà en cours des négociations avec les groupes privés en France, notamment avec Salto. Donc évidemment, il faudra que je prenne connaissance du dossier. Il y a eu pas mal de retard pour diverses raisons. Je pense qu'il faut absolument rester dans la cour de la négociation avec les plateformes type Netflix. Je pense que ce que TF1 a fait avec le bazar des charités, on doit pouvoir faire mieux sur d'autres domaines, notamment des grands documentaires et pourquoi pas des grands films d'animation. Évidemment, avec le label service public, évidemment, à nos conditions et avec nos fenêtres d'exposition privilégiées. Mais oui, il faut coproduire avec ces plateformes privées. Quant à l'international, il s'agit surtout d'être représenté sur les marchés internationaux. C'est très important parce que si on n'a pas de marque emblématique à vendre sur les marchés internationaux, on n'est pas présent. Et c'est là qu'on perd le plus de notre souveraineté. C'est par le programme plus que par les coopérations.
Merci. Nathalie Sonac.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre exposé, Madame. Vous avez beaucoup mis l'accent dans votre projet stratégique sur le déploiement, donc, et vous l'avez redit ici, de la stratégie du groupe sur le numérique. Peut-être donnerai 2 exemples pour comprendre mes questions. La réorganisation donc, de la plateforme avec un accès direct par thématique, info, culture, sport, et aussi avec des plateformes dédiées. Vous avez dit repenser le replay avec plus de technologies, de migration des données vers le cloud. Peut-être j'ai 3 questions là-dessus. C'est d'une part, comment ça se traduit concrètement sur le plan de la DRH, la masse salariale ? Comment ça se traduit sur le plan budgétaire ? Et enfin, comment ça se traduit sur le plan des droits ? Je pense notamment à la télévision, à la TVR à 7 jours. Est-ce que c'est une base de renégociation ou de négociation avec les syndicats professionnels ?
Alors, je vais vous dire quelque chose. Les négociations, elles vont devoir évoluer tout le temps. Parce que les usages, ils évoluent tellement vite que si on veut rester dans la course, il va falloir de toute façon les faire évoluer quoi qu'il arrive. Évidemment, c'est une bonne base de départ, hein, les droits qui ont été renégociés, notamment avec la part dépendante qui a été augmentée. Ça, c'est une bonne base de départ. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Concernant le plan budgétaire, je dirais qu'en réalité, ce n'est pas très ambitieux ce que je propose. C'est juste une manière de ranger différemment les choses et d'avoir une vision. La plateforme que je propose, il y a d'ailleurs un visuel dans mon projet, je vous propose de bien le regarder, mais vous voyez par opposition ce visuel à la plateforme actuelle francetelevision.fr, qui sont des offres qui sont mises un petit peu, pardon, mais un peu comme des briques, en fait, qui n'ont pas vraiment de rapport les unes avec les autres. Vous avez la plateforme Lumni au milieu d'Allo Docteur, au milieu de la plateforme Plus belle la vie. Ce que je propose avec ma plateforme unique et centrale, c'est d'avoir une vision très claire tout de suite de tout l'ensemble des offres qui soient rangées dans les missions du service public. Ce n'est pas si ambitieux que ça. Donc budgétairement, je ne vois pas très bien ce que ça va induire comme coût. J'ai envie de dire, il s'agit de ranger la chambre. Donc, ensuite, vous m'avez posé les questions concernant la DRH. Alors là, je dois dire que là, j'aurais peut-être besoin de rentrer un peu dans les dossiers, parce que c'est assez précis comme de questions. J'espère que je serai bien entourée. Je sais que je serai bien entourée à France Télévisions. Je connais les équipes. Donc, il faudra évidemment prendre les dispositions qui... si vous voulez, on va forcément avoir avec ce projet des nouveaux métiers nécessaires. Et on va forcément voir dans la liste des métiers à France Télévisions actuels, des métiers qui vont disparaître. Ben, il faudra faire le travail de faire combiner tout ça ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que, je le répète, quand on a 50-55 ans, on peut se former. Il n'y a aucun problème.
Michel Léridon.
Merci madame. J'avais deux questions. D'une part sur France Info, puisque vous dites qu'elle doit évoluer éditorialement. J'aimerais savoir... oui, absolument, la chaîne France Info.
France Info, Canal 27, oui, ce que je trouve pas super.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous proposez, à part le fait, effectivement, qu'il y ait plus d'annonces dans les JT pour renvoyer sur cette plateforme? Alors, et puis, par ailleurs, est-ce que vous pouvez revenir sur les podcasts? Je comprends bien qu'en effet, c'est effectivement un terrain intéressant et en pleine expansion. Toutefois, est-ce que c'est bien le rôle des journalistes de France Télévisions? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éparpillement en créant de nouveaux contenus de cette façon?
Alors, j'ai tendance à commencer par la dernière question, mais je reviendrai sur France Info, bien sûr. Alors, concernant les podcasts, pas du tout. Enfin, je crois qu'au contraire, ça va être un formidable terrain de jeu pour les tout, d'ailleurs, pas que les journalistes, pour tous les personnels de France Télévisions qui sont en production. J'ai envie de vous dire, ils attendent que ça. Il y a énormément de possibilités. L'outil France Télévisions le permet largement. C'est léger à faire un podcast. Il ne s'agit pas d'engager des productions compliquées. Au contraire, je pense que ça va débrider même la créativité en interne. Et quand on travaille dans un groupe comme France Télévisions, c'est bien parce qu'on ne veut pas travailler dans l'automobile. Et on a envie d'être créatif, on a envie de participer, on a envie de mettre sa pierre à l'édifice. C'est ça qu'il faut redonner au personnel de France Télévisions, de l'étincelle. C'est très important. Donc non, les podcasts, c'est vraiment une des clés de mon projet. Et concernant France Info, donc, je pense qu'il y a déjà une question, pardon de revenir là-dessus, même si elle ne m'incombe pas, mais sur le canal 27, c'est quand même pas évident pour la chaîne de se développer. Alors, je sais qu'on a parlé de renumérotation, donc ça reviendra peut-être sur le tapis, si je puis dire, mais je défendrai évidemment un canal plus proche. Et ensuite, sur France Info, je pense qu'il faut absolument... Si vous voulez, le service public, c'est décrypter, décrypter, décrypter. Je fais comme l'OMS, moi je répète trois fois. C'est la seule façon de se différencier et puis d'apporter ce que le service public est, c'est-à-dire de donner son point de vue, son éclairage, d'avoir toutes les cartes pour que les gens puissent leur faire leur avis. Pour moi, c'est comme ça que France Info doit évoluer. Il doit vraiment se détacher de la politique du tam-tam de BFM et consorts. Et même en termes de mise en scène, je pense qu'il y a des choses à faire parce que visuellement, elle veut être la chaîne de la raison, mais visuellement, quand on la regarde, c'est la même mise en scène que les chaînes d'info en continu.
Jean-François Marie.
Oui, bonjour madame. À la page 24 de votre rapport, vous indiquez que le budget alloué à la création est d'environ 420 millions d'euros. Oui. J'imagine c'est le...
Des obligations légales.
Oui, enfin... En tout cas, c'est le chiffre, bon, approximatif, mais peu importe. Et dans les pages précédentes et dans les pages suivantes, sur vos priorités, je cite notamment 1B, créer des nouveaux programmes emblématiques et incarnés, vous dites un plan de développement, très bien, un premier budget de plusieurs millions d'euros, bien. Un peu plus loin, vous dites la recherche et le développement, et loin de moi l'idée que ceci ne soit pas important, vous dites encore 160 millions d'euros. Bref, vous annoncez un certain nombre de dépenses, et ma question consisterait à vous demander, au fond, est-ce que ces dépenses, vous les prenez dans une enveloppe qui serait de 420 millions d'euros, ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller au-delà du chiffre actuel qui correspond peu ou prou à l'effort que France Télévisions consacre à la création?
Il faudra aller au-delà. C'est une obligation. Parce qu'on n'est pas assez compétitif dans ce domaine, que les superproductions américaines sur Netflix et consorts dépensent de plus en plus d'argent. C'est une obligation pour rester dans la course et pour faire des programmes de qualité, populaires.
Si le président m'autorise à
vous, en prie,
vous reposer une question, vous allez au-delà. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que, comme toutes les autres... entreprises, tous les autres éditeurs, la crise actuelle aboutit à une diminution des recettes. Donc ma question serait, où est-ce que, pardonnez-moi de l'expression un peu triviale, mais où prenez-vous l'argent ?
Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire sur la structure. Je pense qu'il y a pas mal de... C'est pour ça que j'ai parlé de la nomination d'un... Parce que là, je pourrais vous lister un certain nombre de choses, mais je pense que ce monsieur ou cette madame économie sera chargée de trouver des poches où il est possible de faire des économies. Par ailleurs, en termes de synergie, je pense qu'on peut pousser les choses avec l'audiovisuel public, les autres collègues de l'audiovisuel public. Si vous voulez, concrètement, on a trop peu fait d'économies sur la technostructure et trop sur les programmes. C'est pas possible. Ça peut pas être un groupe de télévision doit produire de la télévision. On ne peut pas dépenser autant d'argent sur la technostructure et à chaque fois qu'il faut faire des économies, le prendre sur les programmes. Donc il faudra trouver des poches d'économies. On est d'accord. Déjà il y a le RCC va déjà permettre d'en faire. Enfin je le souhaite. Il faudra bien réexpliquer d'ailleurs ce plan de départ aux salariés. Donc il y a sans doute au niveau des salaires, au niveau des frais de structure, au niveau, je pense aussi, des projets qui sont actuellement en cours et qui ne sont peut-être pas en phase avec mon projet, qui ont été lancés, qui sont peut-être des dépenses qui ne vont pas dans le cadre de ce groupe multimédia, multicontenu, multisupport. Donc il faudra faire...
Vous pensez à quoi, exactement ?
Je pense notamment à la chaîne en Occitanie. Je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Je pense aussi qu'il y a des synergies à faire plus fortes en matière de formation. Je pense que l'INA, que j'ai citée tout à l'heure, avec qui j'ai beaucoup travaillé, a des programmes de formation formidables. Il faudra voir comment est-ce qu'on peut les utiliser peut-être plus, et donc moins France Télévisions Université. C'est des choix.
Oui, je voudrais quand même compléter la question de Jean-François Marie qui est importante. On voit bien l'évolution de la ligne éditoriale que vous proposez. On voit bien, vous venez de le rappeler, l'accent que vous voulez mettre sur les programmes avec des investissements supplémentaires. Mais c'est vrai que sur le volet recettes, on voit un petit peu moins les choses dans votre dossier. Vous parlez...
Pardon, recettes ou économie ?
Mais il y a les deux dans votre dossier. Ouais. Hein. Vous évoquez d'une part le développement des recettes propres. Donc ouais. On aimerait... en savoir peut-être un petit peu plus, puisque vous donnez peu d'indications sur ce point dans votre dossier. Et sur la trajectoire financière, je voudrais quand même être bien clair, puisque l'État a affiché une trajectoire financière jusqu'en 2022, que l'entreprise a déjà entamé un processus d'économie, comme vous venez de le rappeler, avec notamment un plan de départ important. Et par ailleurs, dans votre exposé, vous avez évoqué la renégociation de cette trajectoire financière avec l'État. Donc est-ce que vous pouvez être plus précise vis-à-vis du collège, à la fois sur ce volet recettes propres, comment vous pensez développer ce volet-là, et puis comment vous voyez l'évolution de la trajectoire financière de la contribution publique, en l'occurrence, qui est la contribution majeure pour le financement de l'entreprise.
Okay. Alors, pour les recettes du groupe, en fait, il y a maintenant, j'ai envie de vous dire, avec ce projet, il y a pas mal de possibilités. Simplement, il faut effectivement les organiser. Mais vous avez déjà le studio France Télévisions, MFP, qui a des services que vous pouvez développer, parce que c'est une entreprise qui, par exemple, peut développer son savoir-faire et le commercialiser à l'extérieur. On n'est pas obligé de rester en interne, comme par exemple le service du doublage, qui est excellent et à l'heure où on doit... qui est excellent MFP, et à l'heure où on doit traduire sur toutes les plateformes en toutes les langues, c'est par exemple une des possibilités. Mais il y en a beaucoup d'autres à France Télévisions, dans tout ce qui est événementiel, tout ce qui est incorporation. Par ailleurs, je pense que le groupe a besoin de développer son état d'esprit sur le développement des marques. Un programme est une marque. Et on peut développer les droits dérivés. Il ne s'agit pas seulement de vendre le programme à d'autres plateformes. On peut organiser des concerts à la base, par exemple, de l'émission « N'oubliez pas les paroles ». On peut aussi organiser des événements terrain à travers de la France pour que les émissions prennent corps. Et on peut en tirer des recettes. Il y a beaucoup de possibilités. Sur la plateforme, par ailleurs, je propose d'aller petit à petit vers un système free premium, c'est-à-dire que si on met en place avec un partenariat une billetterie, c'est pour aussi en tirer quelques revenus partagés. Si on met en e-live des captations dont les droits nous coûtent beaucoup d'argent ou c'est un événement, on peut aussi les vendre. Donc ça, il y a quand même un volet, si vous voulez, sur les recettes, en réalité, carrément infini en termes de champ des possibles, avec d'une part la plateforme, d'une part l'outil France Télévisions et notamment de production qui est tout à fait vendable, et par ailleurs le fait d'exploiter un peu mieux et un peu plus nos programmes. Et puis encore faut-il en avoir des programmes pour les exploiter. Parce qu'il faut aussi savoir que, par exemple, lorsqu'on fait par exemple la série 10% que j'ai négociée, j'ai eu beaucoup de mal à négocier parce qu'il y a trop peu d'épisodes sur le marché international. C'est en ça aussi qu'il faut prendre des risques. Lorsqu'on a une bonne série comme ça, il faut qu'on ait beaucoup plus d'épisodes par série. C'est minimum 24 à 32. Donc ça, c'est pour les recettes. Et pardon, excusez-moi, après, vous me parliez des économies. C'est-à-dire, je pense que effectivement, je crois avoir compris que Radio France a à peu près la même problématique que France Télévisions sur les économies et va négocier aussi un moratoire sur les économies qu'elle a à faire. Donc mon idée, si vous voulez, c'est que les 160 millions qui sont demandés d'ici 2022, c'est de les renégocier avec l'État pour ne pas avoir, d'ici 2022 en tout cas, en budget, de ne pas les avoir en moins sur notre budget. Par contre, on fera bien ces économies et ces économies, elles seront réallouées au contenu et au programme.
Attendez, c'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Parce que d'un côté, vous demandez un moratoire,
oui,
mais de l'autre, vous faites quand même les économies.
Exactement.
Vous pouvez préciser quand même.
Non, mais à partir du moment où ces économies, il ne faudra pas qu'on les... J'ai envie de vous dire d'une certaine manière, il faut que l'État nous laisse 160 millions d'euros pour qu'on puisse développer le groupe. Voilà. Je le dis plus clairement, peut-être.
Donc vous demandez la révision de la trajectoire financière. Exactement. Pour que les choses soient claires. D'accord. Carole Bien-Aimé-Besse, je crois, voulez-vous poser une question ?
Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre présentation. Moi, je voulais revenir sur votre volonté exprimée dans votre dossier, effectivement, de renouer avec la société française, ce besoin de recruter le jeune public, pas uniquement sur le numérique. Vous parlez effectivement de vous appuyer sur la SVOD pour aller rechercher les 13-34 ans, également des nouveaux visages et de toute cette diversité de la société française. Moi, je voulais aussi vous parler de l'inclusion aussi du côté de l'accessibilité, c'est-à-dire que proposer effectivement des programmes qui ressemblent à la société française, c'est très bien, mais encore faudrait-il qu'ils soient accessibles à tout moment et sur tous les supports à la population qui, malheureusement, n'a pas la capacité parce qu'elle est soit en situation de handicap ou parce qu'elle n'a pas accès au numérique ou parce qu'elle n'est pas équipée d'outils comme les tablettes ou téléphones ou autres ou d'internet haut débit. Donc c'est vrai que cette accessibilité-là, moi je voudrais que vous alliez plus loin, c'est-à-dire comment vous faites pour faire en sorte que ce soit accessible en linéaire, en délinéarisé, en replay, sur tous les supports que vous décrivez. Effectivement, Mediavision, je comprends bien l'idée, mais comment faites-vous pour y arriver? Sur le numérique, peut-être être plus précis sur l'offre qui serait celle que vous proposez par rapport au jeune public dont on sait et dont on a vu pendant le confinement qu'effectivement la nation apprenante c'était très intéressant mais que tout le monde n'y avait pas accès via le numérique.
Alors déjà le fait de vouloir avoir une chaîne en linéaire, c'est déjà l'idée que tout le monde aura accès au programme en linéaire parce que tout le territoire est à peu près couvert sur ce domaine-là. Donc après, sur l'accessibilité sur Internet, en fait, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris votre question, dans le sens où ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou pas d'accès au numérique, de fait, ils ne peuvent pas avoir accès au contenu numérique.
Il y a deux choses. Il y a l'accessibilité sourd et malentendant d'un côté, et l'accessibilité tout court, c'est-à-dire que quand on est dans une région qui n'est pas forcément bien couverte, Vous avez une proposition sur le numérique qui est assez développée.
Oui.
Donc comment vous allez pallier au fait qu'effectivement, il y a encore de nombreuses zones blanches en France? Et donc, est-ce que c'est un partenariat avec tel ou tel opérateur? Enfin, je voudrais en savoir plus parce que voilà, en l'état...
Je vais être très sincère avec vous. Là, c'est un domaine, pour le coup, que je n'ai pas étudié de près. Mais évidemment, sur les zones non couvertes, il faudra trouver des solutions. J'ai aucun souci à avoir des partenariats et à faire en sorte que tout soit techniquement accessible. Après, sur le fait d'avoir des programmes sur toutes les plateformes pour la jeunesse, c'est déjà le cas aujourd'hui, me semble-t-il.
Et pour qu'ils soient accessibles aux sourds et à malentendants, vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui signe, il y a aussi la vélotypie.
D'accord.
Permettre, parce que vous parlez d'inclusion, effectivement,
oui, bien sûr.
Ça suppose aussi que tous les programmes soient accessibles.
Oui, bien sûr, ça veut dire, ça suppose qu'il faut les traduire, enfin, les sous-titrer de plus en plus et de les avoir sur la plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le replay de France Télévisions, on n'a pas tous les programmes sous-titrés. Il faudra le faire. Par ailleurs, je pense qu'il faut une plateforme dédiée pour l'audioscription. Pour l'audiodescription. C'est-à-dire que sur mon visuel, parmi les services en plus, je pense qu'il faut une plateforme dédiée pour l'audiodescription ou pour les programmes.
C'est-à-dire pour qu'on retrouverait
tous les programmes possibles, exactement,
à un endroit.
Voilà, si c'est ça la question, ça c'est clair.
Ce qui serait une étape pour ensuite que ce soit accessible partout, parce que l'objectif, c'est de parler de mobilité. Donc c'est vrai que...
Bien sûr, mais il va falloir quand même avancer étape par étape. Je veux dire, toutes les priorités que j'ai soulignées sont tellement importantes que oui, ça fait partie pour moi des évidences et des problèmes qu'il faudra régler vite. Mais je pense qu'il faut passer par une étape plateforme dédiée.
D'accord.
Merci. Et par des partenariats sur les zones grises, donc.
Merci, Nicolas Curien.
Merci. Parmi les nombreuses suggestions que vous faites dans le rapport et dans l'exposé oral, quel ordre de priorité établiriez-vous ? Qu'est-ce que vous feriez dans vos 100 premiers jours ?
Alors, la première chose que je ferais, c'est d'aller au moins 1 de France Télévisions pour aller saluer les équipes techniques. Le moins 1, c'est là où il y a tous les studios, les 6 studios du groupe. Ensuite, je monterai au 4e étage, là où il y a tous les programmes, et je m'entretiendrai avec toutes les équipes. La première chose que je ferais, c'est de demander un audit financier et un audit des stocks. Il faut bien qu'on ait la situation clairement en main pour voir quelle pourra être à partir de ce moment-là, à partir de cette analyse-là, donc le plus vite possible, un calendrier pour bien hiérarchiser les priorités. Et je pense que très rapidement, je mettrai en place un comité de développement pour tout le renouveau éditorial dont j'ai parlé.
Jean-François Marie.
Je voudrais bien prolonger la question de mon collègue Nicolas Curien de la manière suivante. À la fin de votre rapport, vous proposez une vaste réorganisation des structures internes en créant de nouvelles directions. Je n'entre pas dans le détail, parce que ma question est plus simple. Est-ce qu'en arrivant, vous pensez que la première priorité d'une présidente ou d'un président, ce soit de bouleverser l'organigramme ?
Pas du tout, surtout pas.
Pour autant, c'est dans votre rapport.
Hein. C'est un rapport stratégique qui va de 2020 à 2025. Donc, c'est une vision, c'est un cap, c'est une péninsule. Donc, non, je ne pense pas qu'il faille chambouler. Au contraire, il va falloir faire le point d'abord sur, encore une fois, tout ce qui marche bien. Je crois que je l'ai dit dans mon exposé. Voir comment les choses ont été réorganisées en interne dans le détail, parce qu'il y a eu, je crois, des créations par thématique, information, jeunesse, éducation, et de voir quel est le rapport avec les chaînes, parce que je pense que dans un premier temps, il faut garder la verticalité des chaînes. Mais il faut que toutes ces thématiques les irriguent et les chaînes aussi délinéarisées. Donc non, je ne pense pas qu'il faille chambouler. Au contraire, il va falloir consolider ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, voir comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner pour que le système d'information fonctionne en interne. Mais je crois savoir qu'il y a quand même un organigramme qui est très compliqué à France Télévisions, qu'il va falloir simplifier. Il y a des fonctions qui sont incompréhensibles aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir clarifier quand même. Alors là, je n'ai pas avec moi, si vous voulez, l'organigramme qui fait à peu près 2000 pages.
Non,
il fait 2000 pages.
Bien sûr,
c'est pire que le code pénal.
Absolument. encore. Mais il y a des,
donc,
vous dites,
y a des
fonctions qui sont incompréhensibles.
Ah non, il y a des fonctions, incompréhensibles. Enfin, moi, je me souviens qu'on m'avait proposé une fonction hallucinante de direction de coopération. Je ne peux pas vous en donner une comme ça. Si vous voulez, je reprends mon dossier. Mais il y en avait, même celle qu'on m'avait proposée au moment où je suis partie, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
D'accord.
Pourtant, j'ai une certaine expérience en télévision. Pardon.
Allez-y, non, je vous en prie.
Non, je pense quand même, si vous voulez, que la simplification, ça sera le mot-clé. Voilà. C'est pour ça que l'organigramme que je propose, c'est l'organigramme idéal, hein, d'une certaine manière. Mais on n'y arrivera peut-être pas, du premier coup, en tout cas.
Nathalie Sonnac.
Merci, Monsieur le Président. Dans votre rapport, et notamment à la page 22, vous dites, vous souhaiteriez que France Média produisent en interne 50% de programmes de flux.
C'est France Média Vision. Pardon. Vision. Oui, parce que
vision.
France Média, c'était autre chose.
C'est dommage pour une future présidente d'oublier la vision, vous avez raison.
Pardon. C'est l'objectif aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
je vous prie de m'excuser. Effectivement, vous dites que c'est l'objectif. Moi, je voudrais savoir comment vous y parvenez. Alors, effectivement, vous venez de préciser que vous avez 5 ans, mais en termes d'équipe.
Oui.
Ensuite, sur quel type de programme de flux, parce que finalement les programmes de flux c'est relativement large, et est-ce que vous ne craignez pas une augmentation très large des coûts du fait de la fabrique en interne?
Ben, c'est pour ça que je vous ai parlé de la rationalisation de la filière de production en interne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît les coûts du marché, il n'y a pas de raison que les coûts de France Télévisions en interne soient beaucoup plus élevés, donc il va falloir regarder ça de près, ça c'est sûr. Là aussi, il y a un audit, je crois, qu'il faudra faire, ou qui est en cours, ou dont on n'a pas encore les résultats, ou qui est très compliqué à avoir. Alors, en ce qui concerne les programmes de flux, je pense que les équipes, en tout cas à France Télévisions, n'attendent que ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 20 à 30%, même pas, qui est produit en interne. Et l'objectif de 50% me paraît assez juste par rapport au marché et surtout à l'outil de production qu'on a. Mais l'outil de production, il est fabuleux à France Télévisions. C'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. C'est l'un des plus pléthoriques que j'ai jamais vu. Donc on n'a absolument aucun problème en termes de technique et de personnel. Le personnel est excellent à France Télévisions. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, sur le type de programme, ce qu'on s'applique pareil aux producteurs extérieurs, moi je pense qu'il faut se l'appliquer à nous-mêmes, c'est-à-dire que je pense qu'il faut produire un peu plus d'œuvres, utiliser plus encore la part dépendante d'œuvres, qui je crois n'est pas utilisée à son maximum, pour créer peut-être des formats un peu plus novateurs, essayer, quand je dis format, je parle surtout de la durée. Par exemple, je propose d'ouvrir une case de 26 minutes pour la fiction, pour permettre à des jeunes talents...
On était sur du flux, hein. Pardon.
Ah pardon, flux, excusez-moi. Du flux uniquement. Donc,
pas uniquement, mais il s'avère que ma question...
Oui, oui.
Alors que je pense, vous disiez.
Pardon. Je pense qu'il est possible de produire en prime time du flux, que les équipes de France Télévisions le font assez peu. Et je pense qu'il faudrait investir ces cases-là sur des programmes un petit peu emblématiques, justement. Alors, ça peut être, par exemple, sur une émission sur la science, par exemple. Il faudrait envisager de faire, d'après moi, mais bon... Pas directrice des programmes. Il faudra que j'aimerais bien qu'on ait une émission, par exemple, sur les inventeurs de demain, sur le futur, qui donne aux gens une autre vision du futur pour arrêter d'avoir peur du futur. Tout ce qui arrive, c'est-à-dire la data, tout ce qui permettra d'avoir des cités domotiques, tout ce qui permettra à la médecine d'avancer, peut permettre un très beau show de science, j'appelle ça de la science ou d'invention du futur, où on ferait par exemple un télécrochet, c'est ce que j'appelle un télécrochet, c'est-à-dire un concours pour voir quelle est la meilleure invention qui va, dans le futur, être considérée par le public qui nous regarde la plus importante, par exemple. Je dis ça, mais je pourrais en dire plein d'autres. Je pourrais vous parler, par exemple, d'une émission sur les musées. En France, on a des musées extraordinaires. On pourrait parfaitement organiser un concours pour essayer d'élire les 9 œuvres, ou 10 ou 12, les plus représentatives de la France dans les différents musées. On pourrait... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions dans mon projet. Donc, flux, pas flux, les deux. Mais en tout cas, en prime time, d'investir le prime time. Pour les équipes de France Télévisions, j'entends.
Carole Dianamé-Bess.
Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, j'avais une autre question concernant vous parlez beaucoup d'international et je voulais peut-être aborder aussi la question des territoires et des régions.
Oui.
puisque effectivement France Télévisions, il y a aussi France 3 qui représente quand même à peu près un tiers de l'entreprise. Ouais. Donc comment vous, voilà, vous envisagez comment dans votre, c'est pas très détaillé, c'est pour ça que je vous propose la question. Oui. Et je voudrais que peut-être vous précisiez France 3 donc dans les 5 prochaines années, la capacité effectivement de renouer avec le public en région et de faire participer toutes les territoires français, y compris évidemment les territoires ultramarins.
Bien sûr. Alors déjà, je trouve que, si vous voulez, la chaîne France 3, qui est la chaîne de la proximité des régions du territoire, est plutôt une chaîne qui est très bien identifiée. Je pense simplement qu'il faut arriver à montrer plus sur l'antenne nationale les richesses des régions, et évidemment des territoires ultramarins, au travers d'émissions qui mettent en avant la culture gastronomique, folklorique, musicale, etc. Donc ça, c'est déjà, à mon avis, une base de développement de France 3 plus encore. Je pense aussi qu'il faut qu'ils produisent plus encore en local. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 4 heures par jour. Je pense qu'il faut aller à 6 heures par jour. Pareil, leur outil de production est particulièrement bon. Je crois aussi que c'est important que les émissions sortent des studios et aillent de région en région. Je pense que c'est très important aussi pour bien montrer la richesse de nos régions, puis participer d'une certaine manière, y compris les Outre-mer, à la relance économique et touristique du pays. Je pense que c'est important. Donc voilà comment je vois France 3. Il s'agit, finalement, ça fait partie des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Il s'agit juste d'accélérer et de donner encore plus de fenêtres d'exposition à la culture régionale sur les antennes principal. Concernant les régions ultramarines, alors je crois qu'il y a 9 réseaux des premières. Elles sont plutôt très bien, de très bonne qualité, très regardées. Elles ont l'avantage d'avoir radio, web, télévision. Là aussi, je pense qu'on pourrait faire en sorte. Alors, la COVID a beaucoup aidé à montrer que finalement les distances peuvent se résoudre assez facilement. Je pense qu'il faudrait au moins un direct par jour avec les territoires ultramarins pour y montrer ce qui s'y passe. Il faudrait des émissions en prime time qui gèrent plus, qui montrent plus les cultures ultramarines. On peut en avoir plusieurs par an. Offrir aussi sur les antennes des semaines de l'outre-mer, des choses comme ça. Je crois que ça a déjà été fait, ça aussi, et je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer les mentalités pour ne pas donner l'impression au personnel de France Télévisions que c'est pas une impression, c'est une réalité, mais avec, encore une fois, les technologies, les territoires ultramarins ne sont pas si loin que ça. C'est gérable.
Et en termes de structure de l'outil France 3, qui est quand même assez important, qu'est-ce que vous envisagez ?
Alors, là, c'est pareil, j'aimerais bien faire un tour, si je puis dire, que j'ai encore jamais fait, de tout cet outil pour aller vérifier que, sur place. Il y a certains outils, je crois, comme par exemple le studio de Toulouse qui fait 400 mètres carrés, on pourrait l'utiliser beaucoup plus. On pourrait faire délocaliser des productions dans des régions. Ça me paraît... C'est de ça dont vous voulez me parler ?
Oui, enfin, et aussi au niveau humain, c'est-à-dire que management, des équipes, est-ce que... Enfin, aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi une restructuration. Est-ce que vous continueriez dans ce sens ou vous...
La réponse est oui. Ça D'accord. fait partie des choses qui sont à faire.
Merci.
Sur le même sujet, la collaboration France Télévisions, Radio France, et là, en l'occurrence, France 3 et France Bleu, comment vous voyez les choses sur la durée d'un mandat.
Là, c'est pareil. C'est encore pas terminé. Enfin, je veux dire, il y a des expériences qui sont menées, je crois, en Bretagne notamment. Il faudra quand même faire le point sur quel est l'apport que ça donne d'un point de vue qualitatif à l'antenne. Et puis voir comment est-ce qu'on peut faire des économies substantielles, notamment sur les bureaux, sur le partage des journalistes, des choses comme ça. C'est quelque chose, de toute façon, la proximité qui est très importante et qu'il faut aller dans ce sens-là. Est-ce que cette expérience-là est la meilleure ? Franchement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il faudra trouver un axe de proximité beaucoup plus fort.
Michel Léridon.
Oui, merci. Donc, votre projet repose beaucoup sur le média global et donc le développement du numérique. Vous avez parlé de la plateforme et donc d'un meilleur outil pour diffuser les contenus en linéaire. Et quelle est la part pour vous que vous accorderiez à la création de contenus spécifiques, de formats spécifiques pour le numérique? Est-ce que pour vous, c'est un axe important ou est-ce qu'il faut avant tout développer les contenus linéaires avec une meilleure distribution sur le numérique?
Alors, je pense qu'il faut, si vous voulez, aujourd'hui, c'est encore les chaînes linéaires qui financent la création. C'est trop peu. Le numérique permet trop peu de dégager de budget pour pouvoir faire une création ambitieuse. En revanche, évidemment, il faut l'utiliser et mettre quand même un peu d'argent dessus, bien sûr, pour tout ce qui peut être testé, tout ce qui peut être une sorte de laboratoire. Ça, c'est une évidence et ça peut même servir aux antennes principales. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je tiens à dire que j'avais créé le TV Lab quand j'étais à France 4, qui est toujours à l'antenne, qui est toujours sur le numérique, qui est un concours pour les jeunes talents. Donc, je vois très bien comment est-ce qu'on peut utiliser ces axes-là. Mais je pense en effet que le budget, la majorité du budget en termes de contenu, j'entends, et de programme, doit aujourd'hui, vu on va dire le manque de marques emblématiques, aller sur les antennes linéaires. Et de ces programmes-là, qui eux-mêmes, puisque tout est un tout, j'ai envie de vous dire, nourriront la plateforme, pourront quand même être créés des contenus, on va dire, ad hoc ou annexes.
Nicolas Curien.
Oui. Au début de votre exposé, vous avez évoqué les marchés asiatiques où les téléviseurs sont très largement connectés.
Oui.
En France, comment envisagez-vous la modernisation de la plateforme TNT, notamment en matière de qualité d'image ultra haute définition, de services interactifs, et quel rôle moteur particulier pourrait jouer le service public dans cette perspective de modernisation avec en vue les Jeux Olympiques de 2024?
Alors, ce qui est sûr, c'est que là, au niveau technique, très sincèrement, vous n'avez pas la bonne personne en face de vous, parce qu'il faudra que je m'entoure des équipes techniques qui, pour le coup, sont les meilleures, je pense, de France à France Télévisions. En revanche, les JO de 2024, oui, il faut s'y préparer, c'est nécessaire, parce que là aussi, ça sera un gage de relance internationale, français, très important. Au niveau économique, il faudra mettre tout notre savoir-faire. Il faudra d'ailleurs peut-être rediscuter avec les différents acteurs et partenaires, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une chose. Après, en ce qui concerne les marchés asiatiques, c'est absolument pas comparable. On peut absolument pas implémenter en France ce qui se passe en Asie. Les infrastructures sont toutes neuves. Ils utilisent déjà la 5G. On est sur du 8K. Ça n'est pas comparable. Donc, j'espère qu'on y arrivera un jour, mais c'est progressif chez nous.
On pourrait déjà aller sur le 4K.
Oui, on pourrait déjà aller sur le 4K, mais pour les retransmissions sportives, ça a un intérêt. C'est-à-dire qu'il faut le faire à des moments où l'éditorial le justifie. Il faut que ce soit à des moments clés. On pourrait le faire, par exemple, sur le 14 juillet. On pourrait envisager sur les retransmissions du 14 juillet pour que ça devienne un événement, bien sûr. Je pousserai dans ce genre de choses si ça ne coûte pas trop cher.
Nathalie Sonoc.
C'est beaucoup. Revenir peut-être sur France 3 et la place de l'information. Actuellement, il y a eu une réorganisation. Donc, on est passé de 24 éditions à direction aussi à 13 directions. Mais on a gardé néanmoins, il y a 13 directions, mais les 24 éditions, 116 antennes. Et donc, comment vous réorganisez? Est-ce que vous êtes dans la continuité de cette réduction du nombre d'antennes ou pas? Et l'autre point, je rebondis sur ce que vous aviez dit à l'oral tout à l'heure sur la suppression, me semble-t-il, d'une chaîne de télévision en Occitanie. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans pourquoi celle-ci et pas une autre? Or, dans le même temps, on a besoin de plus en plus de proximité. Quel est le ratio?
On a suffisamment d'antennes, je pense, pour ne pas en rajouter d'autres, tout simplement. Ça, c'est une façon pour moi de voir la chose. Et puis surtout, j'ai pas compris stratégiquement quel est l'intérêt. France 3 est déjà le plus grand réseau de proximité de France. Et on a un maillage qui est déjà exceptionnel. Donc oui, il faut plutôt aller dans la continuité de le réorganiser plutôt que de le démultiplier. Et la proximité, ça ne tient pas forcément aux différents bureaux régionaux qu'on a. On peut quand même se déplacer. Et par ailleurs, on a déjà un maillage très fort.
Donc, par exemple, la chaîne Noah.
C'est-à-dire la chaîne Noah,
Vous les supprimeriez ou alors au contraire vous la garderiez parce que c'est expérimental et
non,
on va plus
je
vers la
supprimerai. Ça fait partie des choix et des projets qui ne me paraissent pas aller dans le sens de France Média Vision.
Merci beaucoup.
Parce que je crois qu'on est là pour ce projet-là.
Très bien. Écoutez, merci. On arrive au terme de cette première heure d'audition publique. On va faire une petite pause de 5 minutes, le temps qu'on puisse passer dans une configuration de huis clos. Donc, je remercie les uns les autres de bien vouloir libérer la salle. Et on reprend dans 5 minutes.